Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Thomas de Studio ZEF et si tout va bien en coulisses et en salle de projection, donc nous venons de prendre le direct pour faire la captation des échanges que vous allez pouvoir avoir avec Julie Gaillet qui sont retransmis donc, sur notre radio associative et la vôtre donc, pendant les échanges que vous allez avoir. On est en direct actuellement donc sur le 91.1.
Merci beaucoup.
C'est magique.
Alors, Studio ZEF, qui est la radio locale associative, pendant la quinzaine s'appelle Studio ZEL.
Ah, ah ça oui, devrait voilà. Rester Studio ZEL.
Bon, on va leur soumettre la proposition.
Merci.
Et donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc là, c'était la projection d'Olympe. Et c'est vrai que je suis un peu émue parce que voilà, on a fini le film il y a très, très, très peu de temps. Il y a même encore des petites choses que je notais de son. Mais voilà, c'est un film que j'ai co-réalisé donc avec Mathieu Busson, qui était mon co-réalisateur de tous les documentaires que j'avais fait sur la place des femmes. On avait fait 3 documentaires. Un documentaire qui s'appelait Cinéaste, avec le E entre parenthèses, sur 20 réalisatrices françaises. Puis Cinéaste avec le E barré, avec 20 réalisateurs français. Et puis après, on avait été faire un tour du monde de la place des réalisatrices dans le monde. Parce qu'en fait, finalement, on a pas mal de réalisatrices en France et c'est un peu cocorico par rapport au reste du monde. Voilà, et il est presque plus féministe que moi, c'est pour vous dire, Mathieu. Et on a vraiment tout fait ensemble et on a fait d'ailleurs ce livre dont vous parliez. On l'a commencé ensemble puisque ça devait être un documentaire, notre 4e documentaire. Et on voulait parler des associations qui œuvrent pour l'égalité, la parité, de celles qui, sur le terrain, font pour la santé des femmes, les violences faites aux femmes, enfin, toutes ces femmes que j'ai rencontrées dans ma vie incroyable, que vous avez mis à l'honneur pendant 15 jours pour cette semaine, elle, ici à Blois, des historiennes, enfin. On se disait, voilà, qu'est-ce que c'est que le féministe ? Le féminisme, on ne naît pas féministe, en fait, on le devient. Et tout ce poids de... Enfin, en tout cas, ça paraît évident, mais c'était une question qui... Enfin, c'était la sensation que j'avais, moi, et pourquoi j'ai eu cet engagement. Voilà. Et puis, on est parti faire ce documentaire avec Mathieu, un peu en lien, évidemment, avec moi, mes rencontres et ce que j'avais vécu sur l'endométriose d'abord, et puis voilà, ce parcours. Puis après, avec Mathieu, d'ailleurs, Agnès Varda. Et on s'est rendu compte que c'était difficile de pouvoir... demander, alors autant les réalisatrices, bon, elles ont l'habitude de l'image, mais à certaines femmes qui ont des parcours ou des choses importantes à dire, que c'était peut-être plus facile de faire ces interviews et de les écrire. Donc on en a fait un livre, voilà, avec un peu tout ce parcours.
Merci. Juste quelques petits mots par rapport au film. C'est ce que je disais à Julie en aparté. On connaît l'issue, on sait quelle va être la fin de cette aventure et de cette femme aux lames de gouge, mais jusqu'au bout, enfin, je ne sais pas si ça vous a fait ça, jusqu'au bout on se dit non, là cette fois peut-être que non, elle ne va peut-être pas se faire décapiter, tellement bah, voilà, on est auprès d'elle, on est engagé. Moi j'ai trouvé que le film est très contemporain finalement.
Ça fait plaisir parce que ben, je pense qu'elle s'est battue jusqu'au bout au procès. Hein, c'est vraiment ses mots. On a essayé de mettre ses mots au travers de ses voix off. Alors qu'ils passent, qu'ils ont du mal hein, au cinéma, ce sera beaucoup mieux à la télé, sur France Télévisions. Mais oui, en fait, on voulait raconter aussi la modernité d'Olympe avec cette. Très tôt, cette prise de conscience de l'injustice, l'inégalité, quand elle parle dans la nature, des règles et des lois, avec sa première pièce qui était contre l'esclavage, donc très très moderne pour son époque. Elle a fait partie de ses amis, les amis des Noirs. Après, bon voilà, politiquement, proche des Girondins, enfin, on connaît son histoire, mais on voulait vraiment nous raconter cette femme comme toute. Celles qui sont dans ces associations et qui se battent, qui essaient de faire bouger les lignes, qui essaient de faire bouger les choses, en fait, c'était déjà ça. Qu'il y avait des clubs de femmes aussi, montrer ça. On en montre un peu, mais il y en avait beaucoup à cette époque. Il y avait aussi d'autres personnalités en Angleterre. Alors voilà, moi, j'aurais aimé faire une série sur les femmes dans la Révolution, parce que je crois qu'elle n'est pas seule figure, quoi. Elles étaient là, toutes. Et on voulait raconter cette modernité. Et au travers de cette dernière époque de sa vie où elle a été emprisonnée, c'était aussi un moyen plus moderne. Dans les costumes, on est moins voilà, c'est un peu plus moderne d'abord. Ça permettait de raconter, et c'est ce qui nous importait avec Mathieu, l'enfermement des femmes, parce qu'elle a écrit, donc on a, grâce aux éditions de Cocagne, qui récemment ont republié tout vraiment ces écrits qu'on a retrouvés, parce qu'il en manque évidemment quand il y a eu la perquisition, mais elle avait écrit une pièce de théâtre sur les vœux forcés, les femmes qu'on mettait dans orphelinats, parce qu'elles étaient filles mères, parce qu'on voulait s'en débarrasser, parce que c'était gênant. Donc elle a écrit sur les vœux forcés. On a pensé qu'il y avait aussi cette idée des femmes dans l'histoire et même très récemment, mais qui ont souvent été enfermées dans les hôpitaux psychiatriques aussi. Avec, moi, j'ai lu des textes de Virginie Despentes avec Judith Henry. Virginie Despentes, à 16 ans, elle avait 17 de moyenne, elle était brillante, mais elle était un peu trop curieuse, vive, intéressée par la vie. Donc elle passait son temps à aller voir des spectacles, à faire du stop pour aller voir un concert à quelques kilomètres de là. Et ses parents étaient inquiets, ne savaient pas comment la gérer. Et ils l'ont internée à 16 ans. Et elle dit, est-ce qu'on aurait interné un garçon qui avait 17 de moyenne et qui était super à l'école? Peut-être pas. Donc même Virginie Despentes raconte ça. Et puis il y a eu les Iraniennes, les Afghanes qu'on enferme. Enfin voilà, c'était aussi les mèches de cheveux. C'est pour ça aussi qu'on montre ces mèches de cheveux, c'est important. C'est plein de... Voilà, pour nous, c'était plein de références à cet enfermement des femmes. Et Christy Molia, la productrice, qui vraiment nous a accompagnés, parce qu'on avait donc commencé à rêver une série sur les femmes dans la Révolution, qu'il a fallu faire rentrer dans un film d'une heure et demie, avec juste la vie d'Olympe, et surtout, comment faire rentrer cette vie si riche, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc c'était très, très frustrant, et en même temps, pour raconter cette énergie et cette force qu'elle avait, et cette capacité à faire bouger tout le monde, donc on est parti de la prison, et on a proposer des flashbacks. Et c'est là où quand même à la fiction de chez France Télévisions, Anne Holmes, elle est assez incroyable, parce que normalement, et toute l'équipe qui dirige la fiction, c'est que ça ne plaît pas tellement les flashbacks, parce qu'on nous explique que les gens se perdent. Est-ce que vous vous êtes perdus? Non? Bon, alors ça va. Parce que vous dites, ah non, pas de flashbacks. Et bien eux, nous ont dit, vraiment, ont été très ouverts à cette proposition et nous ont laissé vraiment libres dans cette proposition de scénario et ont validé le scénario. Donc ça, c'était assez formidable parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait pu faire avec les moyens, avec voilà, une heure et demie
pour tout raconter.
Pour tout raconter. Voilà, il fallait faire des ellipses. Donc évidemment, tout n'est pas là, mais moi, j'espère que ça donnera envie. Alors, en plus, avec Mathieu, on nous a proposé Flammarion qui a pu nous a proposé de publier le scénario avec une note, avec nos notes d'intention, avec le choix des costumes, parce qu'on a fait que du recyclage, en se disant on va faire du recyclage, on va pas faire... On a fait pas mal de choses sur ce film, et ils vont republier les textes politiques d'Olympe en même temps, et donc s'en servir d'un outil pédagogique. Comme nous avons été beaucoup soutenus par la région Occitanie, comme elle venait de Montauban, moi j'ai dit, on va les tourner là-bas, on va les tourner de là où elle vient. Alors c'est un peu les briques rouges du côté de Toulouse et Montauban, on est un peu allé dans le Gers aussi et dans l'Aveyron, en Villefranche de Rouergue, mais j'ai promis, et donc là je vais commencer ce long périple, d'aller dans tous les collèges de l'Occitanie, du Tarn-et-Garonne, du Gers, qui nous ont soutenus parce qu'on a tourné dans le Gers, du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron. Donc là, je suis partie pour 3 mois sur les routes pour présenter le film et parler de ces engagements humanistes, je dirais même.
Oui, complètement. Je vais peut-être laisser la parole parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des questions à poser. Donc surtout, n'hésitez pas, il y a des micros à votre disposition.
Bon, on est très émus par ce film, parce que vous êtes vraiment très convaincante, très belle. Il
faut bien coller votre micro à votre menton.
Très belle, ça dépend des moments, mais...
si, toujours. Et donc, c'est pas ça exactement qui est l'essentiel de mon propos, mais je voulais le dire quand même. Ce que je trouve très bien, c'est que moi, j'ai vraiment étudié le parcours d'Olympe de Gouges. J'ai même fait une conférence, même plusieurs, et donc je la connais. J'ai un peu oublié d'ailleurs, parce que c'est vieux déjà. Mais je voulais vous féliciter pour votre sens de l'histoire, parce que là, vous faites un boulot d'histoire aussi. C'est un boulot historique, de recherche historique, à partir des papiers, des textes, et aussi d'une reconstitution des moyens de vie. Alors vous êtes parti de la fin de la vie d'Olympe de Gouges, et ça, c'est très fort, parce que ça éclaire tout le reste. C'est ça que j'ai vraiment trouvé très très bien. Voilà.
Merci beaucoup, merci. Ce texte qu'elle a réussi à faire sortir de la prison, donc c'est le texte tel qu'il est, Alors la décoratrice a fait tout un travail, parce que vous avez peut-être vu qu'il y a le Olympe avec un I, mais c'est comme ça qu'il l'écrivait. Donc c'est réellement les textes qu'on a été aller chercher, les vraies affiches telles qu'elles étaient. Et c'était une révolution, ces affiches qu'on a dans les murs, parce que c'était un moyen de communiquer. J'allais dire, c'est leur Instagram, leurs réseaux sociaux à eux de l'époque, en tout cas, plutôt Twitter, mais enfin Twitter, j'aime pas tellement. Mais c'est en tout cas une façon de s'exprimer dans la rue. Et donc, c'était très important d'avoir les affiches de l'époque. Donc, on a fait tout un travail d'iconographie. On est allé chercher, effectivement, le plus possible sur le travail, d'être juste historiquement aussi, malgré tout, pour que... On ne soit pas non plus dans un truc un peu...
Non, ça fait tout à fait réaliste.
On a beaucoup travaillé. Merci, ça me touche énormément.
Simplement, je me disais qu'il y avait heureusement des lecteurs publics parce que les gens n'étaient pas tous, ne connaissaient pas tous la lecture. Donc, c'est ce qu'on voit à un moment et je trouve ça très, très bien expliqué, qu'il n'y a pas que les affiches, il y a aussi des lecteurs pour les gens qui sont...
Les crieurs, exactement.
Bonsoir. Alors moi, j'étais un peu déçu parce que j'ai vu Les Visiteurs sous la Révolution au cinéma et je trouve que Les Visiteurs, c'est le couvercle de ce qui est débattu ce soir. J'aurais voulu voir l'autoportrait de Olympe de Gouges, alors virevoltante ou alors en image, vraiment son visage qui domine tout. Et puis à la fin bon, comme à chaque truc révolutionnaire qui est fait en film, ça se termine toujours par la guillotine. Donc j'aurais voulu voir...
En même temps, c'est difficile de terminer par autre chose, parce que...
Donc, j'aurais voulu à quelque chose de plus percutant en image.
Mais moi, vraiment, j'avais cette envie de faire cette série beaucoup plus importante, parce qu'il y avait vraiment beaucoup à dire sur cette époque, de femmes qui avaient monté des clubs pour elles aussi aller dans l'armée contre, défendre la France, contre les frontières. Il y avait une chocolatière, il y avait des actrices, enfin, il y avait pas mal à dire en Angleterre aussi, mais oui, on m'a demandé Olympe, et je ne... C'est compliqué, c'est-à-dire que là, si j'avais eu 25 millions et beaucoup de temps et beaucoup d'argent, peut-être que nous aurions fait 2 heures. Mais je trouvais qu'il fallait garder l'essence de l'esprit, des textes, de ce qu'elle a essayé de faire. Et puis surtout ce moment clé face à la reine qui est déterminant, vraiment. Et puis j'ai beaucoup, beaucoup lu ses écrits et essayé de ne pas la trahir, de ne pas dire plus que ce qu'elle... écrit, et donc il y a des grands passages qu'elle a décrits. Alors il manque une ou deux anecdotes qui, moi, m'avaient plu. Elle avait pris un jour une voiture, une voiture, et un homme était en train de parler avec une femme dans cette voiture de ce cocher, et dit que vraiment, lui, il connaît Olympe de Gouges, et qu'Olympe de Gouges, de toute façon, n'était pas une écrivaine. Enfin, elle raconte elle-même l'anecdote, donc elle l'écrit, c'est assez formidable. Et donc, elle lui dit « Ah bon, vous connaissez bien Olympe de Gouges ?» Et donc, elle essaye de le faire parler. Et vraiment, que de son vivant, déjà, on essayait de décribiliser son écriture. Alors, pareil, j'aurais voulu que la jeune fille qui est de Toulouse, qu'on a cherché vraiment quelqu'un de la région pour qu'elle ait légèrement l'accent, elle ne l'avait très peu, donc on ne l'entend pas tellement. C'est dommage. Mais parce que elle est quand même, elle parlait, donc c'était l'occitan, donc c'était l'idée de comment elle avait réappris quand elle a éduqué son fils. Moi, je pourrais vous en parler des heures et il y en a des parties. Mais moi, j'ai pris le parti pris de ce qu'elle a écrit vraiment beaucoup et sur cette fin de vie. Il y a aussi une anecdote où les sans-culottes sont allés chez elle et elle a failli réellement à un moment être. Et ils ont dit combien pour la tête d'Olympe, et c'est elle qui donne. C'est une anecdote assez rigolote aussi où elle dit qu'elle veut payer sa tête. Enfin, je ne sais plus. Il y avait quelques anecdotes qu'on n'a pas mises et qu'on aurait voulu mettre, mais c'est tellement difficile. Donc il faut aussi raconter une histoire de la Révolution française. Pour ceux qui sont plus jeunes, il fallait que ça touche tous les publics. Donc voilà. Mais c'était un long travail. Alors après, comme je vous le disais, c'est cette envie de mettre en lumière des femmes et de donner envie de lire et de comprendre qu'il y a eu dans l'histoire des périodes, des moments où les femmes ont tenté ou ont essayé de faire bouger les choses. Et donc avec Mathieu, on s'est posé et on s'est dit, bon ben là maintenant il faudrait parler de la Commune, parce que là à ce moment-là il y a quand même un petit réveil avec Maria de Resme, qui était une des toutes premières à avoir monté une loge franc-maçonnique. C'est pour ça qu'on va sûrement travailler sur Louise Michel. Voilà. Et il y a eu un film seulement sur l'époque du bagne, et c'est tout. Et il manquait, vraiment, il manque cette histoire-là aussi de cette période-là, des femmes de cette période-là. Ça, c'est la prochaine étape. Donc là, je lis beaucoup, mais je suis preneuse de toutes les... on est parti pour faire ça. Donc je pense qu'on va continuer notre...
Et vous reviendrez nous voir alors.
Hein ?
Vous reviendrez
nous voir. On reviendra vous voir, voilà, exactement, pour une semaine. Elle.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient poser des questions éventuellement ? Soit sur le film, soit sur les engagements de Julie, qui a aussi fait plein de choses dans le monde du cinéma, entre autres avec le collectif 50-50. Peut-être que tu pourrais nous en parler de ça.
Je vais laisser, et j'en parle après.
Bonsoir, merci. Je voulais savoir si le trafic, extorsion de fonds à l'intérieur de la prison, c'était quelque chose qu'elle avait constaté et donc qui avait une base historique réelle. Et d'autre part, si elle avait bien lié dans sa relation aux hommes le mariage, l'engagement et la capacité à s'en défaire, le divorce, ou si c'est une extrapolation. Et plus largement, je me disais, est-ce que c'était une femme très libre de son corps et de ses amours, ou bien elle avait une âme plutôt de monogame ?
Et ben c'est deux des bonnes questions, parce que c'est sur ce... Quand je disais qu'on avait essayé de la décrédibiliser de son vivant en disant qu'elle ne savait pas écrire, c'est parce qu'elle donc, elle a donné des études à son fils, donc ça lui a permis elle aussi de continuer, même si elle avait eu cette éducation. Elle allait suivre des cours en classe libre, parce qu'à l'époque, enfin bon, ça je pourrais en parler pendant des heures, mais on décrédibilisait parce qu'il y a eu une histoire sur une pièce de théâtre qu'elle avait écrite, qui était la suite de Beaumarchais, qui donc a été réutilisée beaucoup pour la décrédibiliser. Mais sur le mariage, alors. Donc, elle a été mariée à 17 ans. Pendant un an, elle a eu ce fils. Elle a écrit que ça avait été quelque chose d'assez terrible et d'enfer, voilà, avec l'équivalent de ce qu'aurait pu être un viol ou une relation non désirée, compliquée, et que une fois qu'elle est partie, c'était donc que son mari est mort. Elle a rencontré Jacques Beu, donc que vous avez vu. Alors ils sont pas partis tout de suite à Paris, ils sont restés un peu à Montauban, et il a été un vrai compagnon de route, et c'est réel, c'est-à-dire qu'il lui a laissé de l'argent. À l'époque, 14 000, je ne sais plus, vraiment le montant qu'on a mis, on a vraiment voulu être juste. Il voulait l'épouser, et ils ont même eu, ce que nous n'avons pas mis, une fille, un enfant qui est mort très très jeune, et donc qui n'a pas vécu. Elle n'a jamais voulu se remarier parce qu'il n'y avait pas le divorce, et elle considérait... Voilà, donc elle avait quelques amants, et donc on a dit d'elle que c'était une courtisane, et elle a eu donc Michel de Cubière qui l'a aidée en fait énormément quand elle a écrit la pièce qu'elle a proposée, donc contre l'esclavage, anonymement à la Comédie Française. La Comédie Française a accepté la pièce, a trouvé la pièce formidable. Quand ils ont su que c'était une femme, ont décidé de ne pas la jouer. Et elle s'est battue pour la faire jouer. Elle a failli être emprisonnée. C'est Michel de Cubière qui l'a énormément aidée, qui lui a été fidèle à une autre femme, qui était une femme importante, qui l'a aidée quand elle était dans la difficulté. Donc c'était juste un amant, comme un amant. Et Théodore, qui est dans la prison, c'est une histoire vraie. Elle a réellement eu une histoire dans la prison avec un homme, alors qui était peut-être pas forcément... ça, on a, nous, ajouté qu'il était, qu'il lisait et qu'il écrivait pour... Mais elle a eu cette histoire avec un homme en prison. Donc, de raconter que c'était quand même une amoureuse. Et alors, je ne pourrais pas répondre à sa place si fidèle, mais Jacques, c'est toute une vie. Ils sont restés réellement toute leur vie ensemble. Et il lui a permis d'avoir son destin, puisqu'il finançait, il l'a financé d'une certaine manière toute sa vie.
Il parle de mécène à un moment.
Voilà, c'est vraiment comme s'ils étaient mariés, mais pas forcément avec un contrat. Alors, pendant la Révolution, il y a donc française, il y a eu un décret, mais peut-être que vous allez le dire, mais un décret qui est passé, donc on le dit, le divorce est autorisé. Eh ben, ça a été une vague de demandes en divorce des femmes. Et là, ça a été terrible, parce que c'était toutes ces femmes qui avaient été mariées, mais qui en avaient marre de se prendre des roustes, et qui ont, hop, grosse demande de divorce. Et donc, ils ont fait un peu marche arrière après. Voilà. Bon, moi, j'ai tendance à dire même qu'on peut dire que Napoléon avait, hop, code Napoléon, toutes les femmes à la maison. Voilà. Le divorce, c'était pas... Mais ça, c'était assez incroyable. Il faudrait vraiment faire un film sur ça. Je trouve ça assez génial. Ce moment où... Le rush des femmes qui viennent divorcer. Qui veulent divorcer. Alors, une autre question, oui.
Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas une question, c'est vraiment... ça marche, non ?
Oui, ça marche. Oui, ça marche, ça marche. Ouais.
Là, tout près. Voilà. Non, c'est vraiment vous remercier parce que ce film, enfin moi, je... D'abord, c'est vrai que c'est un rapport à l'histoire, c'est beau. Mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment percuté, c'est vraiment ce courage, en fait. Le courage de cette femme... Mais tout le long du film, on sent, vous avez su faire passer toute cette niaque, toute cette envie, vraiment ça donne envie en fait. Ça donne envie à la fin de se dire, y a des femmes qui se battent à ce point-là, mais franchement c'est bravo quoi. Donc je voulais juste vous dire ça, que c'était vraiment pour moi un très très beau film. J'ai eu vraiment la larme à l'œil à la fin, parce que j'avais pas envie du tout qu'elle se fasse décapiter. Et effectivement, j'avais l'espoir qu'on trouve quelque chose. J'ai dit, oh non, elle va passer à côté.
Ouais, détourner l'histoire.
De détourner l'histoire, ouais. J'aurais bien aimé, oui. Mais oui. Bon, voilà.
Les peuples de France, vous vengerez ma mort. Ah, c'est ça. On est là.
Non, mais franchement...
La semaine, elle, 15 jours.
En tout cas, merci parce que c'est un beau film. Et peut-être court, dites court, mais.
Ben, voilà.
Oui, peut-être.
On a fait avec
mais
ce qu'on avait.
Suffisant. Enfin, pour moi, franchement, il a été fort. Voilà. C'était juste un témoignage. Merci.
Ben, j'espère que ça permettra de faire une grande série un jour. Non, mais je suis heureuse pour la semaine, elle aussi, parce que c'est cette, et quand même le dire, hein, c'est cette idée de toutes les associations qui ont envie de contribuer, et pas que les femmes pour les femmes avec les femmes. Je pense que c'était aussi ça, cette idée que d'autres associations dans la ville fassent des propositions, qu'on soit ensemble. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé à... Que je me suis engagée, c'est-à-dire... c'est difficile de dire quand ça commence, c'est pour ça que j'en ai fait un livre. C'est compliqué de se poser ces questions-là, j'ai mis du temps à y répondre, probablement depuis plus longtemps. Mais en tout cas, l'endométriose et la prise de conscience qu'il y avait une maladie qui touchait les femmes et que je ne connaissais pas même le nom de cette maladie à 40 ans, fille de chirurgien, petite fille de chirurgien, arrière petite fille de femme médecin qui donc n'a pas pu exercer parce qu'on n'avait pas le droit de voir les hommes nus dans les familles catholiques. Je me dis, c'est pas possible en fait, si nous les femmes on connaît pas cette maladie. Et donc je me suis beaucoup intéressée et j'ai fait cette campagne qui a duré presque 10 ans avec Imani et Chrysoula Zakharopoulou, notre ministre, qui était ministre, vous avez peut-être entendu parler, qui était gynécologue. Vraiment, quand elle est venue me voir en parlant de cette maladie, je lui ai dit, elle se moque de moi. Donc j'ai appelé mon père chirurgien, il m'a dit, mais bien sûr, mais c'est le tabou des règles. Le tabou des règles, des femmes impures, de tout ce qui... Et là, je me suis dit, bon, donc là, il faut déjà, on a un gros sujet. Donc on est parti sur cette... Je ne sais pas pourquoi tu pars dans cette galère de l'endométriose. Et on est parti avec cette campagne en se disant un peu, et c'est pour ça que je crois que quand j'ai lu le livre de Benoît de Groult, ou la bande dessinée hein, de Cathalie Bocquet, mais vraiment sur cette énergie... Je ne savais pas dans quoi je plongeais à ce moment-là très 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 fort. Hein. On a comment parler, quelle campagne faire sur l'endométriose, comment parler des règles. Alors à un moment, on disait, bon, il nous a fallu déjà beaucoup de temps pour trouver les règles, c'est naturel, pas la douleur. En disant, bon, au moins ça, c'est clair. Puis après, quelqu'un fait, oui, mais sur le Doliprane, il y a marqué règles douloureuses. Ah, aïe. Ben oui, mais c'est pas cette douleur-là. Enfin, quand on tombe dans les pommes ou qu'on est dans le noir et qu'on peut plus bouger ou qu'on vomit, il y a quand même, enfin bon, il y a des douleurs. Et puis même, c'est pas forcément douloureux dans l'endométriose. Mais déjà, si à la base, les gens pouvaient comprendre que quand on a mal, c'est pas normal, même si c'est pas ça, c'est pas grave, c'est bien. Donc on a commencé comme ça, et puis après aller chercher du papier, aller chercher. Donc c'était une patronne qui avait une boîte qui avait du papier, de la colle, aller chercher des entreprises qui nous aident pour. On a beaucoup formé les infirmières scolaires qui ferment les infirmières scolaires, les grands groupes. On a bataillé, faire signer. Ça a duré, puis avant, je me disais, ah ouais, c'est vraiment quelque chose, faire bouger les choses, aller à l'ONU, continuer, l'Europe, de ne pas lâcher. Mais ça a été passionnant pendant ces 10 années pour, j'espère maintenant que, je crois que dans les lycées, on connaît l'endométriose. J'ai l'impression même que les choses ont quand même beaucoup plus bougé sur ce sujet. Et dans nos métiers est arrivée cette fameuse affaire Weinstein en 2017. Et là, moi, je venais de monter une association, de comprendre la difficulté de monter une association avec d'autres associations de malades, et finalement de se dire, mais nous, les actrices, c'est pas notre rôle, peut-être. Notre rôle, c'est d'essayer de faire bouger les choses, d'apporter notre force. Et donc, on s'est réunis avec beaucoup. Hein. On était aussi des réalisatrices, des distributrices, celles qui avaient déjà monté, d'ailleurs, une association qui s'appelait Le Deuxième Regard, qui essayait de montrer des films de femmes, de faire des actions, qui était assez super. Et quand elles ont commencé, d'ailleurs, on leur disait, mais pourquoi elles font ça? Elles étaient assez choquées, mais elles disaient, mais un jour, je me suis retrouvée dans une réunion, j'étais la seule femme, il n'y avait que des hommes dans ce métier, il faudrait quand même qu'on bouge un peu le regard. Donc, deuxième regard. Et tout ensemble, on se disait, ben oui, il ne faut pas que ça devienne, faut pas que ce soit juste un moment, cette vague MeToo, cette libération de la parole. Il faut vraiment qu'on arrive à en faire un mouvement. Il faut qu'on arrive à bouger les choses. Ce n'est pas possible d'en être encore sur ces sujets. Et on a essayé de séparer, quand même, malgré tout, l'idée que, bon, évidemment, il faut lutter contre les violences, harcèlement sexiste et sexuel, comme on dit, les VHSS, d'accord. Et là, il faut qu'on mette des règles, des garde-fous, il faut qu'il y ait des... Alors, c'est vraiment des protocoles, et c'est même obligatoire d'avoir des formations, si on a de l'aide du CNC, des formations pour les hommes et les femmes, parce qu'en fait, c'est pas qu'une question de femmes, c'est vraiment plutôt, même, je dirais, surtout une question d'hommes. Et de femmes, en tout cas en majorité. Donc c'est une question globale de la société qu'on doit prendre. Et donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis de l'autre côté, de se dire, mais c'est tout un fonctionnement. Il faut aussi qu'on se pose vraiment des questions sur le faire changer le rapport de force. Et bon, vous connaissez tout ça, voilà, sur l'égalité, la parité, sur même tout simplement l'injure à raison du sexe, comme on dit. Il y a une loi qui est passée en 2004, on porte plainte quand il y a une injure à raison de l'homophobie, le racisme. Mais alors, injure sexiste, là, il n'y avait jamais eu aucun procès de fait, jamais. Et des avocates, donc j'en fais le portrait, Valence Borgia et la force juridique de la Fondation des femmes, elles ont commencé à s'attaquer à ça. C'est-à-dire vraiment des symboles, des choses importantes, en disant que c'est tout un mécanisme, le sexisme, qui en fait apporte une banalisation d'une main au cul, une banalisation. Mais... Et puis après, qu'on est dans une société aujourd'hui sur les jeunes plus compliquée, donc voilà. Donc on a décidé de se joindre à la Fondation des femmes. Je fais le portrait de Anne-Cécile Melfer dans le livre, alors qu'il va sortir en poche, comme ça je pourrais venir, je reviendrai l'année prochaine, et de faire ces portraits, donc de la présidente de la Fondation des femmes, de la force juridique, et de raconter tous ces combats emblématiques qu'elles ont eus, et comment elles en sont arrivées là, et ce qu'on essaye de faire bouger quand on nous dit « oh non, mais... » L'IVG dans la Constitution n'est pas remis en question. Est-ce que c'est vraiment utile? Mais là, le message qui a été donné, sincèrement, de la France vers le reste du monde, dans une période où, en réalité, les droits des femmes sont toujours fragilisés quand il y a des crises, pour reprendre les mots d'autres féministes, je trouve que c'est assez formidable parce que c'est important. Là, on marque, je pense, le droit des femmes de disposer de leur corps, qui est quand même la base, même si en réalité c'est la contraception qui est le début de l'indépendance des femmes, avec la loi Neuwirth. Mais bon, bref, donc moi je suis rentrée dans cette Fondation des femmes en disant que c'était un lieu de nuance, et en 2017 on a dit voilà, on n'est pas toutes d'accord, on n'a pas toutes les mêmes points de vue. Il y en a, on a polémiqué, on a débattu, on est différentes. Mais maintenant, ça suffit, on agit. Je crois qu'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on avance. Et ça, ça a été un grand changement en 2017. C'est que les femmes se sont mises en association, en réseau, et se sont mises à militer ensemble. Et c'est pour ça que c'était aussi important la modernité d'Olympe. C'est que tout à coup, maintenant, et je le vois dans toutes les industries culturelles, des médias, des journalistes à Women in Games, les femmes dans le jeu vidéo il y a 3 ans qui ont monté une association, les femmes dans la musique classique, présence compositrice, qui ont monté un moteur de recherche, s'appelle Demander à Clara, qui est absolument incroyable. Vous ne pouvez plus dire que vous ne connaissez pas une partition piano 18e, 17e, vous avez une compositrice qui l'ont. Elle est dans ce moteur de recherche. Et elles se mettent toutes ensemble, elles discutent, elles avancent. Mais il y a quand même eu, même chez les journalistes, qui est quand même féminisé, même chez les avocates, et vous, voilà, c'est pour ça que j'en parle dans le livre, encore des choses d'inégalité dingue. En 2007 ou 2008, et c'est vraiment pas si loin, quand on s'est réunis avec toutes ces associations, les filles des Échos nous ont raconté qu'elles ont un numéro, c'est un numéro collector, où il y avait eu un énième nomination d'un homme au CA. Elles se retrouvent à la cafétéria, elles ne se parlaient pas vraiment entre elles, et puis tout à coup, quand même, il y en a une qui râle. Donc une deuxième qui dit, bah oui, c'est quand même marre, c'est encore un mec qui est au conseil d'administration. Et elles décident de faire grève, et sur ce numéro qui est historique, elles n'ont pas signé, elles n'ont signé aucun de leurs papiers, et bien il n'y avait que 2 papiers signés dans tout le journal. Et là, elles ont dit, bah quand même... Ils sont tous à la direction et nous, on travaille. Donc, elles ont fait changer et elles ne sont toujours pas paritaires au sein des Échos. Mais ça a avancé, on est en 2024. Donc, ça avance tout doucement. Nous, en 2017, on s'est dit, allez, 50-50 en 2020. Ça s'appelait, le collectif, ça s'appelait 50-50 2020. On a enlevé 2020 et on a dit 50-50, tout court. Ça arrive. C'est bon. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées chez les avocates, qui est pareil, une profession qui se féminise énormément. Et c'est une autre anecdote que je raconte dans mon livre. Elles ont dû se battre pour la grossesse, qui est un gros sujet évidemment dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et j'ai découvert ça. J'ai découvert par une des filles de la force juridique qui a beaucoup de collaboratrices dans les cabinets, mais il y a peu d'associés. Les associés sont souvent masculins et que donc, quand les collaboratrices tombaient enceintes, elles n'étaient pas forcément réengagées après leur grossesse. Eh bien, elles ont dû attaquer les collaboratrices, les avocats. Donc, des avocates qui attaquent les avocats. Il y avait quand même quelques hommes avec elles. Non, on ne peut pas dire que c'était que non plus des femmes, parce que moi, je pense que c'est pas... Mais c'est quand même compliqué, les avocats, entre eux. Eh bien, elles sont passées par le défenseur des droits et elles ont gagné. Donc, il y a eu, premièrement, une obligation de réengager les femmes, les avocates collaboratrices, quand elles tombaient enceintes, au moins 2 mois après la grossesse. Et là, je crois que le délai a augmenté. Enfin, voilà. Tout ça pour dire, le droit, c'est des petites choses. Et moi, je crois beaucoup aux petites gouttes, aux petites choses et au fait d'être ensemble, parce qu'on est plus forte. Et ça, c'est ce que je dis, prenais Agnès Varda, qui a été ma maman de cinéma. Voilà, quand j'ai commencé, elle m'a dit, ensemble, on sera plus forte. Le problème, c'est que nous, depuis les années 70, on est chacune dans notre coin. Il faut absolument, Julie, un féminisme joyeux et ensemble, on est plus forte. Donc voilà, j'essaie d'être la voix d'Agnès Varda. Est-ce que ça va à la radio? Vous êtes tous là?
Je pense que ça va. Je ne suis pas à la technique, mais j'imagine que ça va. bon, bah moi, j'ai une question. Merci. Je profite d'avoir le micro. Pardon.
Ah, je voulais dire bonne nuit.
Ah, pardon.
C'est la dernière question, parce que là, on allait dire bonne nuit.
OK, ouais. Pardon.
Une dernière question, alors oui.
Pour le coup, sur le collectif 50-50 et la difficulté ou la possibilité d'avoir la parité dans les équipes techniques de tournage, etc. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça a été possible sur ce tournage? Comment ça se passe?
Là, on est hyper fiers. Donc, c'est une compositrice. Alors, nous, on a vraiment fait fort. Hein. On a fait le diamétral opposé des tournages. On a 98% de techniciennes. On a pris beaucoup de femmes. Je voulais essayer le 100%, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas encore au point, mais peut-être le prochain. Non, non, on était très sensibles à ça avec Mathieu, évidemment. Hein. Le seul regret, c'était d'avoir pris un cascadeur. Je fais, mais non, mais en fait, ça, il aurait fallu prendre une cascadeuse, ça aurait été vachement... vraiment, parce qu'on a, en plus, pas que dans des postes des hommes pour les hommes et les femmes. Non, vraiment, on a travaillé sur ce sujet, c'est très important. Et c'est pareil que pour la musique classique. On pense, et c'est pour ça que le collectif 50-50 est né, c'était pour donner une bible et pour permettre d'avoir des techniciennes, une liste de techniciennes. Et puis, bon, 50-50, c'est aussi une charte qui a été signée par tous les festivals du monde entier. Et j'aime bien ça parce que c'est simplement une espèce de prise de conscience. On leur demande juste de signer, quand ils signent cette charte, de donner les chiffres des films sélectionnés, des films reçus féminins, la part, des chiffres en fait. Combien il y a de femmes dans les comités de sélection, combien il y a de femmes dans les comités de direction, voilà. Et bien juste quand ils écrivent qu'il n'y en a pas, ils se disent « Oh mince, il n'y en a pas !» Peut-être qu'on s'améliore la prochaine fois. Et bien juste en leur demandant les chiffres, ça a fait beaucoup changer les choses. Donc ça, c'était quand même vraiment bien. Et puis après, ces chartes qui ont été signées par 120 grands festivals du monde entier, ça a été objectivé, donc faire des études, essayer de comprendre. Et alors moi, je suis tombée à la renverse parce que je suis productrice, donc j'ai produit des films, j'organise un événement. Et c'est pour ça que je suis beaucoup allée voir les DRH en France. Mais c'est assez fou, je donne tout le temps cet exemple parce que ça me déprime. Il y a 80%, plus de 80% de maquilleuses et de coiffeuses sur les tournages, en général dans les équipes, enfin dans le nombre de techniciennes et techniciens. Eh bien, elles sont payées 17% de moins que les maquilleurs et coiffeurs. Donc, j'ai quand même essayé de comprendre. Ben, parce que ce ne sont pas des maquilleurs et des coiffeurs, ce sont des artistes. Et ce sont... Non, non, c'est tout simplement parce que les hommes... Parce que moi, je suis allée voir mon directeur de production. J'ai vu que c'était arrivé sur un de mes tournages. Et il m'a expliqué, bah, moi, tu me demandes de faire des économies. Donc, quand j'ai engagé la maquilleuse, elle m'a dit oui et elle ne m'a pas posé de questions. Elle a accepté comme ça. Alors que quand j'ai demandé au coiffeur, bah, il m'a dit oui, les heures de nuit, les heures sup, et comment on fait, et moi, j'ai besoin de ci, et moi, j'ai besoin de ça. Ah, je me suis dit, oui, mais ça, c'est pas normal. Donc, j'ai changé les choses sur les tournages. J'ai fait vraiment très attention. Ce fameux syndrome de « il va falloir s'imposer, mesdames ». On a été éduqués comme ça, donc c'est pas si simple. Et c'est vraiment une construction. On va falloir se changer tous ensemble. Et je lui dis, mais quand même, là, il faut que tu fasses un effort. Il faut des barèmes, il faut trouver une solution. On peut pas faire ça. Et bien là, j'organise un festival. Il y avait 3 photographes qu'on a engagés. Je vais vous donner les prix. On peut éteindre la radio. Les hommes nous ont demandé vraiment 3 500 euros. Elle nous a demandé 1 002. Vous voyez la différence ? Je fais, OK, on prend l'ensemble du budget, on le divise par 3. Mais si, moi, je ne suis pas vigilante, on n'aurait pas eu cet équilibre.
Les habitudes.
Je fais extrêmement attention à ça et je le dis, ça ne passera pas si nous ne faisons pas ensemble des choses pour faire changer et attention et se changer nous-mêmes tous ensemble. Voilà. Donc sur les tournages, l'égalité salariale, c'est pas du tout ça, mais on a mis au point des tas de processus, par exemple des bonifications quand on a quand on a 5 chefs de poste sur un film femme, il y a une bonification du fonds de soutien du CNC, de l'argent qu'il vous donne. Donc c'est bien, on se dit, si vous en avez 3, 2 de plus. Donc on essaye de trouver des choses pour faire travailler les techniciennes. Mais c'est assez super. Voilà, merci.
Je suis content d'avoir posé la question, du coup.
Merci.
Bien, merci.
La bonne
beaucoup.
Soirée. Merci à tous. Et donc, il n'est pas sorti tout de suite. Mais quand vous en entendrez parler, n'hésitez pas. On parlait autour
merci,
de vous.
Merci Julie. Merci à tout le monde d'avoir été à nos côtés.
Et
bonne fin de semaine, encore quelques jours. Demain.
Et merci beaucoup. Merci.
Et puis, merci au service qui travaille avec nous. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup et bonne soirée sur Studio Zef pour ceux qui sont sur leur radio. La musique continue. Bonne soirée.
Du 8 au 23 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et de la Semaine L à Blois, Studio ZEF devient Studio ZEL.
Émissions thématiques et engagées.
Programmation spécifique autour des luttes féministes et en faveur de l'égalité des droits.
Studio ZEF vous propose de vivre au rythme de la Semaine L.
Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas.
Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle.
Nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau.
Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Retrouvez la programmation complète de Studio ZEL sur notre site
studiozef.fr. La semaine L, c'est du 8 au 23 mars à Blois. Et sur Studio ZEL.
Studio ZEL.
Studio ZEL.